Bonjour, Raymond Richard au micro, et bien nous nous retrouvons pour Histoire d'en savoir plus. Et pour cette émission Histoire d'en savoir plus, et bien j'ai eu beaucoup de chance puisque à la radio on a accueilli Madame Linda Haddad qui nous arrive de Kabylie. Alors je lui ai dit, dans le fond, vous pourriez peut-être nous parler un peu de l'Algérie et plus précisément de la Kabylie parce que finalement nous ne connaissons pas beaucoup ce pays. C'est vrai qu'avec l'Algérie, il y a toujours eu cette... Quelquefois, on accueille, quelquefois on accueille plus ou moins bien. Et puis, il y a aussi un vieux contentieux de guerre. Et l'occasion de rencontrer quelqu'un qui vient en France, qui vient de cette région, qui est jeune et qui se dit qu'après tout, l'histoire, c'est aussi du passé et c'est peut-être à dépasser. Alors, merci. Et on va pouvoir justement se poser des questions et vous y répondrez comme vous voulez. Sur l'Algérie et sur la Kabylie. Alors, vous-même, vous êtes originaire de Kabylie.
Oui. Bonjour.
Bonjour aux auditeurs. Et donc, situez-nous un peu la Kabylie par rapport à l'Algérie, parce que c'est vrai qu'on voit mal, et puis de loin, on a l'impression l'Algérie, un pays unifié, on dit l'Algérie. Mais en fait, derrière l'Algérie, il y a, comme en France, il y a la Bretagne et le Nord et les Alpes, et c'est pas pareil. La Kabylie, c'est quoi par rapport à l'Algérie ? C'est une région administrative particulière ? Ça a un statut particulier ou bien ça fait partie de...
Non, la Kabylie l'Algérie. Fait partie de l'Algérie. Donc l'Algérie, c'est la capitale et la Kabylie fait partie de l'Algérie, donc il n'a pas de...
Pas de région administrative particulière.
Du tout, donc on est chapeauté par...
Par Alger.
Par Alger, d'accord. Voilà.
La Kabylie, donnez-nous quelques villes quand même, qu'on ressent
La Kabylie, donc il y a Tizi Ouzou. Oui. Voilà, il y a Bouira, il y a Bougie.
D'accord.
Voilà, il y a aussi une partout. Hein. Donc, quand on dit la Kabylie, donc on peut pas se situer dans les régions kabyles. Donc, on peut trouver des kabyles à Constantine, on peut trouver des kabyles à Oran, on peut trouver des kabyles à Annaba, on peut trouver des kabyles dans le sud, il y a les Touaregs. Donc les Berbères, ils sont partout. Hein. Ils sont partout en Algérie.
Donc, en fait, c'est la partie berbère de l'Algérie qui se distingue un peu des Arabes.
Oui, c'est ça, oui, on peut dire ça. Donc, c'est la particularité, c'est la langue.
Voilà. Oui, ça se sent, voilà, au point de vue de la culture, quelle particularité ? Donc, vous dites la langue ?
Oui, la langue, c'est la culture. Il y a des traditions aussi berbères qui sont un peu différentes des Arabes, voilà.
Les langues officielles de l'Algérie, c'est ?
La langue officielle, donc, c'est l'arabe et, le kabyle.
L'arabe et le kabyle.
Le berbère, voilà. Oui.
D'accord. Et pour l'enseignement, il faut aussi parler français.
L'enseignement ?
Oui, où il se fait complètement en arabe.
L'enseignement de la langue berbère ?
Non, l'enseignement en général.
Ah, l'enseignement, lorsqu'on donc non, il se fait en arabe, en français, en
il
berbère
se fait dans
aussi.
Les trois langues. Donc.
Les trois langues, oui.
D'accord. Alors, vous avez décidé de, toute petite, d'aimer la radio. Et vous me disiez, je regardais le poste et je me disais, mais où ils sont ceux qui parlent ?
Oui, c'est vrai.
Donc, parlez-moi un peu de cette...
C'est
intéressant de voir quelqu'un qui a le sens du métier déjà tout petit en disant, je veux faire ça.
Je vous assure que quand j'étais petite, je pense à l'âge de 7 ans, 8 ans, je regarde... je ne sais pas si vous vous souvenez des postes marrants, des petits postes. Il y avait des postes marrants. Des fois, je reste chez ma grand-mère. Mmh. Et quand ma grand-mère, donc, elle comprend pas à la télévision, elle comprend pas beaucoup l'arabe et tout. Donc, il y avait des émissions, beaucoup d'émissions. Donc, elle comprend pas. Donc, elle préfère écouter la radio de, justement, de Berbère, la chaîne 2. Elle écoutait la chaîne 2, donc, parce que c'est une vieille, donc, elle comprend pas.
Et puis la seule langue qui
parlait à l'époque, c'était le berbère, qui comprenait, c'était le berbère, donc il n'écoutait que la chaîne 2. Donc, mm-hmm. Des fois, je reste avec elle comme ça pour l'accompagner. Alors, je me demande, je lui dis, c'est pas possible, mais comment ça sort cette voix dans ce poste ? Est-ce que c'est des fils ? Est-ce que les gens sont à l'intérieur ? Mais comment ils sont à l'intérieur alors que le poste, il est petit ? Mais c'est pas possible. Après, dans ma tête, je me pose la question, mais je dois savoir. Des fois, je prends le poste et je regarde. Je regarde à l'intérieur comme ça, je vois, est-ce que vraiment il y a des gens ? Est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur ? Je regarde, après je dis non, mais il n'y a personne, il n'y a que des fils. Mais comment alors ça sort la voix ? Et voilà, c'était ça ma première question.
La grande question sur les fils.
La première et ma très grande question qui m'a poussée à faire du journalisme. Voilà.
La curiosité.
Donc j'ai suivi cette voix, et oui. C'était sérieux, hein, je l'ai suivi. Après petite, 8 ans, après 2 ans, 13 ans, 14 ans, donc j'ai compris à peu près
l'école,
ce qu'il
le
sait
lycée,
et tout.
Voilà.
Après c'était le lycée et après c'était l'université. Et mon premier choix c'était journaliste. Voilà.
D'accord. C'est facile pour les étudiants algériens de faire d'aller à l'université?
C'est facile, oui. L'accès à l'école, l'État algérien, la priorité, c'est pour l'école et la santé. Donc, c'est gratuit pour tout le monde et c'est tout le monde qui va à l'école. Voilà, c'est obligatoire et c'est obligé.
C'est gratuit.
C'est gratuit aussi, voilà. Et donc, l'État, il a mis tous les moyens pour financer l'école et les universités.
Et pour l'université aussi, c'est facile pour tout le monde.
C'est simplement facile pour tout le monde. Il y a des bus, il y a des bourses, il y a tout ce qu'il faut. Voilà.
Il
faut juste une volonté et vouloir faire ses études et continuer, voilà. Parce que c'est pas, voilà, pour faire des études supérieures, il faut avoir une volonté. Il faut vraiment cette volonté qui vous pousse à suivre le cursus universitaire et à
passer des examens
et à passer des examens et à les réussir et avoir ce diplôme et après chercher du travail, voilà.
Alors comment se situe justement la question du, parce qu'on voit dans l'actualité, on voit quand même que les jeunes descendent dans la rue et ne sont pas très contents vis-à-vis de leurs autorités. Alors qu'en fait, il y a eu quand même cette éducation qui a été donnée à tous.
Oui, c'est vrai. En fait, moi, je voudrais parler déjà de la langue berbère pour qu'il soit déjà officiel. Je me souviens, c'était en 1995, j'allais passer mon bac, j'ai fait une année blanche pour justement que la langue berbère soit à l'école, soit au lycée, soit aux universités. Parce que c'était, à l'époque, il n'était pas officiel. Donc, notre génération, ils ont déjà consacré un an de boycott, un an d'année blanche. Donc, on n'a pas été à l'école, justement, pour réclamer que notre langue berbère, langue maternelle, soit à l'école, soit enseignée. C'est déjà, la cabinet, elle a commencé à réclamer. Donc non, il faut que ça soit officiel à côté de l'arabe.
Maintenant, c'est officiel à côté de l'arabe.
Oui, maintenant, c'est officiel. Après, en fait, les kabis, c'est pas que... On n'est pas contre le pouvoir, en fait. On cherche un changement. On veut que le système change, rajeunit un peu. Plus de liberté, plus de, c'est-à-dire de formation pour les jeunes, plus de travail, plus de places de loisirs. Voilà. C'est vrai que cette fois-ci, il n'y a pas eu... Je pense qu'il y avait juste 1% des Kabyles qui ont voté pour... les élections présidentielles. Et c'est
parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la manière de faire.
Toujours. Les Kabyles, ils sont... En fait, je pense qu'ils sont plus conscients que les autres, je ne sais pas moi.
Il y a un enracinement dans la liberté qui est plus grand.
Oui, et c'est des gens, ils sont branchés partout, donc ils savent à peu près qu'il faut que ça change. En fait, on veut que ça change. On adore, on aime bien notre pays. On aimerait bien qu'ils soient meilleurs que les autres, que les gens aillent dans l'emploi, que les jeunes travaillent, que ça avance. Voilà, il faut un changement. Il faut un changement. On a besoin d'un changement positif pour les gens, pour les jeunes, pour les mamans, pour les enfants, pour les futures générations. Parce que nous, en fait, on fait pas partie de l'ancienne, mais quand même, on aimerait bien du nouveau pour la nouvelle génération qui arrive.
Et pourtant, vous dites, même si ce pays a fait beaucoup pour nous.
Oui, moi je vois quand même il a fait beaucoup, hein, puisque l'accès à l'école, l'accès à la santé, l'accès à beaucoup de choses et tout. Mais ça reste quand même, qu'on a beaucoup de, on demande encore des trucs, on demande des choses, on demande qu'on avance, qu'on ait beaucoup de formation, de points de loisirs. C'est-à-dire, maintenant, le monde a changé, les nouvelles technologies, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait bien que notre future génération ait accès à beaucoup de choses. Voilà.
D'accord. Comment se situe, par exemple, vous évoquez votre grand-mère en disant, elle ne comprenait que le kabyle et elle écoutait le kabyle. Et votre maman, vous-même, une nouvelle génération, et vous dites, nous, on veut aussi que ça change. Mais... Justement, quelle est la situation des femmes, finalement? Parce que souvent, on entend tout et n'importe quoi sur les femmes. Moi, j'aimerais bien, quand je vous vois, je me dis bien, totalement libérée. Et entre vous et moi, je me dis, eh bien, c'est la même chose. Vous avez une totale liberté, vous allez, vous venez. Et souvent, on entend les femmes en Algérie, Alors, les femmes en Algérie, elles sont libres, elles font quoi? Comment ça se passe?
Bah oui, ils sont
très libres. Donnez-nous votre avis.
Bah, les femmes en Algérie, elles sont très libres, très émancipées. Et maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'accès aux postes de responsabilité. Donc, il y a des femmes, et elles ont accès aux postes où avant, elles avaient que 10 ans, par exemple, dans les travaux publics, pilotes d'avion, directrices dans des administrations. Donc, au contraire, moi, c'est mon avis.
D'après ce que vous avez vu,
d'après mon expérience, parce que dans le cadre du journalisme, donc on se déplace, on fait des reportages, on fait. Donc moi je vois pas, en fait je vois pas la différence entre les femmes d'Algérie et les femmes d'ailleurs. Au contraire, il y a beaucoup de liberté, beaucoup de femmes, elles sont cultivées, elles sont épanouies, elles sont émancipées. C'est des femmes qui cherchent à travailler, à avancer dans leur vie, à avoir leur avenir entre leurs mains. Donc, il n'y a aucun problème dans
l'avenir
ce sens.
Entre ses mains et on le prend.
Et voilà, on le prend, il n'y a aucun problème. Après, la question de la vie privée et familiale, chacune à sa vie, voilà, sa manière.
À sa vie privée, le domaine privé,
voilà,
reste le domaine,
voilà,
privé.
Exactement.
Et on n'est pas obligé de porter telle robe longue ou telle voile ou telle... Ça, c'est une vision...
Du tout, parce qu'en fait, il y avait la destinée noire. Les femmes, peut-être, elles n'étaient pas forcées, mais elles avaient peur de sortir peut-être comme
oui,
ça.
Oui, il y avait quand même...
Voilà, il y avait la destinée noire. Moi, je...
Vous avez des souvenirs
là-dessus ? Moi, j'ai pas de grands souvenirs par rapport à ça parce que.
Vous étiez trop jeune.
J'étais trop jeune, voilà. En plus, les cabines, on n'a pas de problème dans ce sens parce qu'on a des traditions. Donc, on n'a pas dans notre tradition le port de voile ou des trucs. On a une tenue berbère. C'est une tenue belle et respectueuse, mais on n'a pas de truc de porter un voile et tout. Mais actuellement, je pense pas que les femmes elles sont obligées forcées de porter un voile. Ça revient à leur conviction privée, donc elles sont libres. Une femme qui veut porter un voile, elle a une conviction personnelle. Elle peut, et l'autre, y a aucun problème. Il y a des femmes modernes, il y a aucun problème avec une tenue
donc
moderne.
Donc la destinée noire qui est obligée telle ceci ou cela, c'est passé, c'est dépassé, c'est fini.
Du tout. C'est dépassé, c'est fini, parce que oui, c'est vrai qu'il y avait une destinée noire, c'était difficile. Ils n'étaient pas forcés, mais ils ont peur, je pense. C'est la peur, voilà.
On se pliait à ce qui semblait.
Peut-être à l'époque, moi j'étais jeune, je n'ai pas de grand souvenirs par rapport à ça. Mais sinon, actuellement, les femmes, elles sont au contraire. Elles sont libres, elles sont modernes. Moi, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir pour les femmes en Algérie.
D'accord. Alors, et à la radio, puisque finalement vous étiez à la radio, donc ça a été facile pour vous de trouver ce poste?
À la radio, comment j'ai trouvé mon
poste
à la radio?
Là-bas, voilà. Là-bas, en Algérie.
Oui, donc en Algérie, en fait, moi quand j'étais à l'université, toujours dans le cadre d'un stage, parce qu'on a un stage pratique.
Il y a des stages pratiques dans l'enseignement,
voilà.
Oui.
À l'université, donc il y a un stage pratique à faire. Donc, à l'époque, c'est pas nous qui cherchions des stages, c'est l'université qui nous cherche des stages et qui nous envoie un encadreur. On est accompagné avec un encadreur. Mm-hmm. Donc, on était 20 à l'université d'Alger, à l'ITFC. Donc, on était 20 personnes. On est parti avec un encadreur. C'est l'école qui a fait des contacts.
Qui a pris les contacts.
C'est l'école qui a pris des contacts pour qu'on fasse notre stage de fin d'année, de fin d'études à la radio. Voilà. Donc, on était là-bas, on était une vingtaine de personnes. On a fait notre stage, je pense, d'un mois et demi. Donc, on était chapeautés déjà par un encadreur de l'école supérieure de journalisme. Et là-bas aussi, on a trouvé des journalistes, des anciens journalistes qui faisaient partie de la radio. Ils avaient de l'expérience, donc avec un encadrement et tout. Voilà, donc c'était à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de journalistes. Parce que il y avait pas beaucoup de journalistes, il y avait des gens qui la destinée noire déjà, il y a des journalistes qui sont partis, il y a des journalistes qui sont changés de métier et tout, donc ils ont déjà un besoin de l'effectif. Donc après la fin du stage, ils ont vu qu'il y a
des
étudiants meilleurs, voilà, donc on a fait une formation et à la fin de stage et un journal collectif, donc ils ont sélectionné 5 et j'étais parmi les 5 sélectionnés. Voilà, d'accord. C'est comme ça que...
Vous avez travaillé là?
Voilà, après, ils nous ont demandé de finir déjà
la formation de
fin d'études et le diplôme et tout, et après, de revenir, juste après. Voilà, donc j'ai terminé mes études en 2001, le 25 janvier 2001, et ils m'ont appelé le 7 juillet, je me souviens, le 7 juillet, je suis partie.
Donc, finalement...
C'était aussi un coup de chance et un coup de hasard.
Le hasard et la chance, mais enfin...
Fait bien les choses, des fois.
Obligé d'aller à Alger. Vous étiez obligée d'aller à Alger pour travailler ?
Bah, j'étais déjà sur Alger parce que mes études, elles étaient sur Alger.
Elles étaient déjà
mais
sur
après,
Alger.
Oui, je dois travailler sur Alger parce qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir un boulot sur Alger qu'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est la capitale. Voilà. Et après, le siège de la radio, il était sur Alger.
D'accord.
Ouais, c'est ça.
Donc là, vous aviez embrayé sur Alger. Alors, parlez-nous un peu des autres aspects de l'Algérie, parce que finalement, c'est quand même un pays méditerranéen, c'est quand même, il y a des montagnes. Parlez-nous un peu de ce pays.
Bah oui, il y a des montagnes. Bah, l'Algérie...
Ce que vous aimez, vous.
Moi, je vous dis franchement, j'adore mon pays. C'est un très, très beau pays. Pourquoi?
Alors, oui, pourquoi?
Parce que j'ai eu la chance, vu ma profession de journaliste, de faire les 48 wilayas. Parce que...
Les wilayas, c'est quoi? C'est une région, c'est
la wilaya, c'est comme ici le...
Le département.
Les départements, par exemple.
D'accord.
Voilà, c'est des wilayas. Donc, j'ai eu la chance de visiter dans le cadre de mon travail, de mes missions de travail.
Oui.
Donc, des fois, on fait des reportages. Des fois, il y a de l'actualité un peu partout. Donc, on se déplace pour 2 jours, 3 jours, 5 jours, des fois plus,
oui,
pour faire des reportages.
Donc, il y a une très grande diversité de paysages.
Donc, il y a une très, très grande diversité de paysages et de cultures. Et il y a le littoral de 1200 km, il y a des montagnes de la Kabylie, il y a le sud. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à voir en Algérie. C'est un très beau pays, en fait. Parce que déjà, moi-même, quand je me déplace dans le cadre d'une mission, moi, je vois, c'est pas possible. Heureusement que j'ai eu la chance de voir le sud, de voir Témimoun.
De voir le désert, donc.
De voir le désert, oui.
Les montagnes.
Oui.
Aussi, c'est des grandes montagnes.
Oui.
Avec de la neige.
Il y a la neige, il y a la mer, il y a tout ce qu'il faut.
Il y a tout ce qu'il faut.
Oui.
Tout ce qu'il faut pour les vacances.
Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour se reposer, pour... voilà.
Au niveau des ressources, parce qu'effectivement, on parle toujours de... Bon, il y a le pétrole et le gaz pour l'Algérie, mais que font les gens? Quelles sont leurs professions? Comment ils travaillent? Et notamment dans l'agriculture, comment ça se présente, ces paysages?
Il y a beaucoup de métiers, il y a de l'agriculture, il y a d'autres métiers aussi. Après, il y a de l'agriculture aussi au plateau, il y a dans le sud, même dans le sud, on voit de l'agriculture, il y a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de moyens pour avoir l'agriculture là-bas, donc il y a d'autres professions aussi.
Il y a d'autres professions, oui, alors parlez-nous un peu. Qu'est-ce qui vous a interpellé quand vous avez visité ces wilayas? Qu'est-ce qui vous a... choqué ou que vous avez aimé particulièrement?
Je vous ai dit déjà que j'ai aimé la diversité de paysages déjà, et culturels et des traditions. Parce que là, on va, par exemple, chaque wilaya, chaque région, et là, l'art culinaire, et là, ses traditions, ses fêtes.
Il y a de la cuisine différente.
Voilà, la cuisine différente. Par exemple, la cuisine du Sud et ses traditions et tout du Sud, c'est pas la même chose que quand on va à Oran, à Constantine, à Annaba, par exemple. Et c'est pas la même chose, la capitale, Alger, par exemple. Et là, ses traditions, et là, ses occasions de fêtes et tout. Après, on a des fêtes qui ne réunissent, par exemple. Il y a les fêtes de l'Aïd, il y a les fêtes de prophètes, par exemple. Il y a des fêtes de mariage. Il y a beaucoup de traditions. C'est-à-dire
Donc, au moment des mariages, finalement, on invite beaucoup. Il y a des grandes festivités.
Il y a beaucoup, oui. Il y a beaucoup de monde qui sont là quand il y a des mariages, il y a des familles, il y a des grandes fêtes. Il y a des beaux choses à voir, en fait. Parce que même moi, en Kabylie, quand je fais des reportages, comment que ça fait les chants traditionnels dans les fêtes, quand la circoncision, le mariage et tout, c'est trop beau à voir et c'est trop beau à écouter, à voir toutes ces belles choses.
Alors, quand vous parlez des fêtes de mariage, de la circoncision, de la fête de l'Aïd, ce sont des fêtes religieuses. Les fêtes religieuses sont chômées. Ça veut dire qu'en fait, sont chômées.
Mm.
Donc la religion musulmane est quand même la religion un peu officielle de l'Algérie.
Bah oui, bien sûr, elle est officielle.
C'est la religion officielle.
Oui.
Mais on peut être aussi.
Mais après, on est libre aussi, oui. Il y a la liberté des cultes, oui.
Voilà, il y a la religion officielle, mais en même temps, on a la liberté d'y participer ou non.
Bien sûr, liberté totale.
Liberté totale. Mm. Mais par contre, il y a ces fêtes qui sont chômées.
Oui, chômées, et puis oui, journées, oui, exactement. Donc, c'est des journées, là, on ne travaille pas, il y a les administrations et tout, ils sont...
Donc, quel est le jour C'est pas le dimanche, évidemment, qu'on est en congé. C'est quel jour?
Non,
c'est vendredi.
C'est vendredi-samedi.
Vendredi-samedi. Mm-hmm. D'accord. Donc là, effectivement, il y a le rôle quand même de la religion qui intervient beaucoup dans la culture.
Oui, parce que le vendredi, parce qu'il y a la salade de vendredi, donc ça, c'est clair. Et le samedi aussi, c'est... Voilà. Les gens ne travaillent pas aussi.
Les gens ne travaillent pas.
Oui.
Et le dimanche, on travaille.
Et dimanche, on travaille. Dimanche, à 8h, on est au poste.
Donc, effectivement. Alors, on a évoqué donc une religion d'État. Est-ce que, au point de vue des espaces, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la montagne. Alors, je pensais que, justement, on utilise les ressources de la montagne pour les voyages. On visite aussi.
Bien sûr, il y a des visites touristiques, il y a des JT touristiques aussi, il y a beaucoup de des voyages organisés. Tout. Ce qui manque peut-être, c'est les services. Il reste beaucoup de choses à faire dans ce sens, mais c'est un beau pays à visiter, mais il faut développer les services, c'est-à-dire pour recevoir plus de monde, plus de touristes, il nous faut encore développer d'autres
pour
services.
Développer.
Ouais, pour accueillir, pour les hôtels, beaucoup plus d'hôtels, beaucoup plus de maisons de jeunes, de maisons de culture et tout.
Qu'est-ce qui vous a... Puisque vous êtes... vous dites, moi, ce que je veux, c'est faire avancer la culture berbère, et notamment, quels sont les aspects de la culture berbère que vous voudriez voir... que vous voudriez partager. Voilà, vous avez là... Parlez-nous un peu de cette culture berbère.
Justement, en fait, moi, je vous ai déjà expliqué que depuis toute petite, j'adore ma culture, j'adore ma langue. Et en 95, j'ai fait le boycott et j'étais consciente, j'étais lycéenne, j'étais au lycée, j'étais consciente que même si je rate une année pour avoir mon bac, c'est pas grave, c'est pour une bonne cause, pour que ma culture soit officielle, pour que ma culture soit dans les écoles et un peu partout en Algérie. Et m'en suis déjà maintenant, c'est-à-dire je pouvais peut-être travailler dans une autre langue, en arabe ou en français, mais non, j'ai choisi la chaîne 2 d'expression berbère et kabyle parce que c'est ça mon but, c'est de promouvoir ma langue maternelle. Et c'est de continuer dans cette voie. Le journalisme, c'est un métier que j'aime beaucoup, c'est un métier qui me façonne, c'est une vocation. Mais aussi, l'approche qui est très importante pour moi, c'est de promouvoir ma langue ailleurs, c'est de faire des émissions justement partout, par exemple en France, de faire des émissions en berbère, de faire connaître ma culture, mes traditions et ma langue, c'est mon souhait vraiment. Voilà.
Alors, quand il y a des traditions particulières, parlez-nous un peu de ces traditions particulières.
Des traditions berbères, il y a beaucoup de traditions. Il y a l'art culinaire, il y a le couscous. Il y a des plats, il y a des plats spécialement kabyles, il y a des gâteaux spécialement kabyles.
Donnez-nous envie.
Il y a beaucoup de plats kabyles, par exemple, que j'aimerais bien connaître. Il y a goûter aussi. Et il y a des gâteaux aussi qu'il faut... Il faut les promouvoir, il faut les faire connaître aux gens. Il y a la culture, il y a la tenue. Il y a les fêtes qu'on fait. En fait, les Berbères eux-mêmes, et ils fêtent des traditions à chaque fois. C'est-à-dire, c'est pas juste les traditions religieuses, mais on a des fêtes. On a des fêtes entre nous. On fait des entretiens familiales, par exemple. Il y a beaucoup de convivialité. Donc, je vois que c'est une belle culture. Il faut vraiment la faire connaître. Il faut que les gens la connaissent.
Et
la découvrent.
Le dessert est surtout avec les Berbères. Et là, c'est très particulier parce que c'est un milieu très difficile, le désert, quand même.
C'est un lieu.
Un lieu,
oui. Un lieu difficile, le désert, oui. Difficile à vivre, peut-être, avant, mais maintenant, il y a beaucoup plus de moyens. Mais c'est vrai que le désert, il faut vraiment l'exploiter d'une autre manière. Parce que si on l'exploite d'un côté touristique, il y a beaucoup de choses à voir là-bas, donc... Et ça peut être une belle chose.
Ça peut être une belle chose.
Oui. pour l'économie du pays, le tourisme, pour promouvoir le tourisme aussi, c'est... Moi, je vois que je trouve qu'il est très intéressant.
Promouvoir le tourisme dans le sud et dans cette zone désertique qui est...
Oui.
Parce que finalement, la plus grande partie du Sahara, c'est
En fait, les touristes, dans leur vie quotidienne, ils ont un confort. Donc, ce qu'ils cherchent là-bas, c'est un autre mode de vie. C'est les tentes.
Justement.
C'est par exemple dormir en pleine lune, en pleine... exactement, sous une tente.
Vous l'avez fait souvent, ça ?
Oui, on l'a déjà fait dans un cadre d'émission là-bas. Donc, c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau de, par exemple, de passer la nuit dans une tente, de voir, par exemple, beaucoup de choses.
Le lever du jour. De dehors et pas de...
Exactement, pas dans un hôtel où il y a le confort, il y a tout ce qu'il faut. Donc, et manger par terre, manger collectif. J'ai eu même la chance de rencontrer beaucoup de touristes étrangers et de faire des entretiens avec eux et de voir dans leurs yeux la fascination. C'est-à-dire, ils étaient vraiment émerveillés par la beauté de ce pays, de ce désert et tout. J'ai eu la chance de faire de très, très beaux reportages et de les diffuser aussi.
Pour dire aux Algériens, regardez le pays merveilleux que vous avez.
Voilà. Et des fois, il y a beaucoup d'Algériens qui préfèrent partir ailleurs. Voilà, des fois, on dit aux Algériens, il faut vraiment connaître un chez-soi avant d'y aller ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de belles choses à voir aussi. Voilà. Mais après, c'est vrai que ça manque, les services, ça manque beaucoup. Pour recevoir beaucoup de monde, beaucoup de touristes, il faut vraiment travailler encore.
Mais est-ce que finalement, c'est peut-être intéressant de recevoir des touristes qui veulent bien aller faire... être à la Belle Étoile.
Voilà,
puis,
les randonnées, par exemple, là-bas, oui, c'est très, très beau, oui, à la Belle Étoile. Oui, j'en ai vu des touristes, soit allemands, américains, français, dans d'autres nationalités. Donc, ils ont vraiment aimé, adoré dormir en pleine lune et voir d'autres prestations de services plus anciennes, plus traditionnelles que le confort actuel. C'est-à-dire, c'est un passage à un autre niveau. Et c'est quelque chose, une découverte, c'est très beau.
Eh bien, vous savez que notre émission s'achève, puisqu'on est à 27 minutes. Donc, j'ai entendu que le pays était beau, que vous l'aimiez, et que vous invitiez nos auditeurs à s'intéresser à lui, à le connaître. Et merci d'être venu témoigner de ce pays et de sa réalité. Et aux auditeurs, je dis, eh bien, profitez donc de ce témoignage pour visiter dans votre tête, peut-être avoir envie de ce pays, l'Algérie. Et je dis bonne semaine à tous, au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Je me rappelle cette nuit d'orage, entourée de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge. J'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tous ceux qui me sont très chers. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi, je vieillis. Rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort. Seul je me parle à moi-même.